Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Derrière des comédies populaires comme Incognito, Barbecue, L'embarras du choix, Retour chez ma mère, se cache le plus discret, mais pas le moins sympathique, des réalisateurs. Amoureux du cinéma pour les mêmes raisons que nous, son public. C'est Éric Lavenne dont la nouvelle comédie, après le succès de Retour chez ma mère, plus de 2 millions d'entrées en salle, donc sort mercredi prochain. Son titre, Un tour chez ma fille. Même casting, mais pas du tout le même propos. Bonjour Éric Lavenne.
Bonjour.
Alors Éric Lavenne, dans Retour chez ma mère, vous évoquez ces cadras qui, après avoir perdu leur job, sont contraints de revenir squatter chez maman. Dans Un tour chez ma fille, c'est la mère qui débarque de manière impromptue chez sa fille, théoriquement pour quelques jours, en réalité pour quelques mois. Une fois de plus, c'est votre mère à vous qui a inspiré le propos du film. Mais alors, cette fois-ci, est-ce qu'elle se reconnaît, votre maman, dans ce personnage extraordinairement envahissant ?
Je vais avoir des ennuis avec ma mère.
Il faut savoir que... Faut assumer, hein.
Tout à fait. Ma mère, qui est généralement fan de tout ce que je fais, quand je vais aux toilettes chez elle, elle m'applaudit. quand elle avait vu Retour chez ma mère, j'avais fait une petite projection donc du premier opus. Elle est sortie de la salle sans me dire un mot. Donc c'était assez mauvais signe. Et j'avais compris qu'en fait, elle s'était vexée sur une séquence où Josiane Balasco a du mal à créer une boîte mail avec l'aide de sa fille. Et c'est tout le dialogue Gmail, Tamalou, etc. C'est un dialogue que j'avais eu avec ma mère quand j'ai essayé de lui créer une boîte mail. Ma mère a un problème, on va le dire, avec tout ce qui est nouvelle technologie. Elle est très en forme, elle a 92 ans, mais c'est vrai que nonobstant le fait qu'elle prenne une heure de cours d'informatique dans sa maison de retraite par semaine.
Donc non mais à 92 ans, c'est formidable en tout cas de faire de l'informatique.
Elle ne s'est pas envoyé un texto, donc c'est sûr que j'aimerais bien rencontrer son professeur d'informatique. Et donc, néanmoins, elle a revu Retour chez ma mère en salle, il y avait une avant-première. Elle est venue avec des copines à elle et elle était assez fière de voir l'œuvre de son fils. Et quand elle est sortie de la salle, elle s'est précipitée sur Balasco, sur Josiane, qui ne la connaissait pas. Elle s'est plantée devant Josiane en lui disant « Vous êtes moi ».
C'est merveilleux. Bon, Josiane Balasco, effectivement, elle campe le rôle de cette mère aimante. Alors là, je parle de la nouvelle comédie qui sort mercredi. Cette mère aimante, mais aussi intrusive que décomplexée et déterminée. Et dans le dossier de presse, Éric Lavenne, vous déclarez que ce rôle est finalement assez proche de ce que Balasco est dans la vie.
Ah ben, Josiane, elle est extraordinaire parce que Josiane, elle est à la fois grande gueule, elle se laisse pas marcher sur les pieds, mais en même temps, elle est super attachante. C'est d'ailleurs c'est rare d'avoir une comédienne de son âge. Elle est encore jeune, mais je dirais pas son âge. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, petite parenthèse, c'est qu'elle est, c'est une senior, comme on dit, mais en très bonne santé. Là, on n'est pas du tout en train de traiter un autre sujet qui serait les personnes âgées en difficulté,
que
on doit bien évidemment accueillir. Et Josiane, elle se laisse pas du tout marcher sur les pieds, mais elle dit ce qu'elle pense, mais on ne lui en veut jamais. Elle est exceptionnelle pour ça.
Bon, alors on parle souvent de la génération boomerang, mais le retour imprévu d'un parent à la maison, ça pose mille questions. Depuis Internet, le monde a changé très très vite, il fonctionne avec d'autres codes, et quand l'enfant est un cadrat, et bien la cohabitation avec un parent qui a donc 30 ans de plus, ça peut quand même être sacrément compliqué.
Ah bah c'est très compliqué, notamment quand elle s'installe chez Mathilde Seigné, sa fille. Il faut savoir que
n'est pas la fille préférée.
Voilà, qui n'est pas sa fille préférée. Sa fille préférée, c'est Alexandra Lamy, qui est partie construire des immeubles au Brésil. Et Josiane est obligée de retourner chez sa fille Mathilde. Et Mathilde, alors pour le coup, là, on parle de personnes qui n'aiment pas se laisser marcher sur le pied. C'est un peu le cas de Mathilde.
Elle
peut être assez cassante. Donc c'est vraiment le choc entre la fille et la mère.
Alors vous dites que vous vous méfiez toujours des quiproquos au cinéma, parce que bon, dans la vie vraie, il serait résolu en 3 minutes. Et pourtant, dans cette comédie, Un tour chez ma fille, bah, le malentendu et les quiproquos autour de la vie sexuelle, on peut le dire, de la maman, fonctionnent, mais alors vraiment tout au long de l'histoire.
Bah, c'est-à-dire que moi, j'avais envie d'avoir quelque chose vraiment très fort entre Josiane et Jérôme Commandeur, qui est donc son beau-fils. Et c'est vrai, il y a un petit quiproquo au début du film qui va se poursuivre. Et pendant tout le film, Jérôme est persuadé que sa belle-mère est érotomane. Et c'est un très lourd secret qu'il va révéler simplement à la fin au reste de la fratrie.
Bon, l'éclairage social, parce que là, on est vraiment dans la fantaisie, mais l'éclairage social étonnamment réaliste de cette comédie, c'est que bah, désormais, on constate que les seniors sont plus prompts à réinventer leur vie que les cadras. À votre avis, Éric Lavenne, avec l'âge, on ressent une sorte d'urgence à être heureux et à explorer ce qu'on n'a pas connu ?
Ben surtout, encore une fois, les seniors, mais les seniors en bonne santé, et ma mère en a longtemps fait partie, c'est qu'ils ont, quelque part, ils sont plus charge de famille, ils ont encore des moyens, et c'est vrai qu'ils ont une sorte de liberté incroyable qu'on n'a pas quand on a 40 ans, avec des enfants, avec peut-être moins d'argent. Donc c'est vrai qu'ils sont, les seniors aujourd'hui sont en forme. Et
quand
ils en
on
profitent.
Est un peu égoïste, c'est plus facile d'être heureux finalement.
Voilà, mais est-ce que c'est vraiment de l'égoïsme que de penser à soi? Je pense que chacun.
Je vous provoque.
Voilà. Même Mère Teresa, je pense faire le bien, ça l'arrangeait aussi.
Bon, Éric Lavagne, une fois de plus, vous avez une équipe de choc pour servir cette histoire. Donc, Josiane Balasco, Mathilde Seigné, Jérôme Commandeur. Seriez-vous en train de créer une famille à l'écran avec laquelle vous pourrez décliner toutes les problématiques des spectateurs?
Alors, j'ai la chance, oui, d'avoir cette petite troupe de comédiens où je vais pouvoir traiter tous les sujets de famille. Pour les sujets qui m'intéressent énormément aussi, les sujets entre amis, là, j'ai une autre licence, si j'ose dire. J'ai fait un film qui s'appelait Barbecue, où j'avais un groupe d'amis. Le premier film, c'était sur l'usure de l'amitié.
Oui.
Et là, je suis en
avec
train
un
de...
casting absolument éblouissant.
Très bon casting autour de Lambert Wilson, Dubosc & Co.
Foresti,
Tonquédec, Jérôme Commandeur de nouveau.
Donc,
et en fait,
sûr.
Là, ça me permettait de traiter les problématiques autour des amis. Là, avec ce retour chez ma mère ou un tour chez ma fille, c'est les problématiques autour de la famille. On sait qu'il y a de très nombreux thèmes qu'on peut aborder. Et l'intérêt de bosser avec les mêmes, c'est qu'on se connaît. C'est-à-dire que dès qu'on se retrouve, tout de suite, on a des automatismes et on n'a pas cette espèce de temps de latence qui fait qu'on doit redécouvrir un comédien. C'est compliqué quand même, la première fois qu'on travaille avec quelqu'un. D'autant plus que souvent, comme ces comédiens dits bankable, très demandés, on n'a pas le temps de les voir vraiment avant. On arrive parfois le premier jour de tournage, on les a...
On les connaît,
on a parlé un peu du rôle, mais on les a vus une première fois pour les convaincre. Ensuite, ils sont partis à droite, à gauche, on les revoit pour les costumes.
Les bankable ne font pas de casting, Éric Lavagne.
C'est-à-dire que, oui, c'est sûr que si Spielberg demande à Dujardin de lui faire des essais, je pense que Jean, il les fera. Maintenant...
Mais vous êtes en train de nous dire que si Éric Lavagne demande à Dujardin de faire des essais, il ne les fera pas?
Mais d'abord, je n'en aurais pas besoin parce que c'est un super comédien avec qui j'adorerais travailler. Mais c'est vrai que vous avez des... Par exemple, Josiane, je me vois mal l'appeler et lui dire « on va te faire un petit bout d'essai ».
On se balade cet après-midi en compagnie d'Éric Lavagne. On fait une pause très courte, on le retrouve tout de suite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Mercredi prochain sera en salle la nouvelle comédie d'Éric Lavagne. Elle a pour titre Un tour chez ma fille. Et au casting, on retrouve Josiane Balasco, Mathilde Seigné, Jérôme Commandeur. Bref, du beau monde. Cher Éric Lavagne, vous êtes l'exemple parfait de celui qui a trouvé sa voie au fil de rencontres et de hasards heureux. Vous imaginiez quelle vie, en fait, quand vous étiez à Sciences Po Paris?
Oh là, pareil, vous voyez, j'ai fait Sciences Po Paris, je pense, avant tout pour faire plaisir à ma mère. Je vais parler de ma mère. Un des moments les plus heureux de ma vie, c'est le jour où dans notre immeuble, on était à Versailles, pas dans le Versailles riche, hein, dans le Versailles un peu plus laborieux, si j'ose dire, elle a ouvert devant moi les résultats de Sciences Po. Et la joie qu'elle a eue, ça me redonne la chair de poule. Enfin voilà, petite parenthèse, puisqu'on parlait de ma mère. Sinon, je ne pensais absolument pas faire du cinéma. Moi, ce que je voulais, c'est trouver un job où on m'ennuie pas trop. Donc
Sciences Po, c'était pour gagner du temps.
Et après, j'ai tout de suite monté une petite entreprise qui s'est développée et qui était dans la publicité.
Voilà, mais vous allez vite en besogne, parce que je reste sur l'époque Sciences Po. C'est à cette époque-là que vous avez eu un rendez-vous avec Thierry Ardisson, qui ne vous a pas engagé, mais dont les paroles ont résonné longtemps en vous.
Thierry Ardisson, quand je le vois, à chaque fois il m'en reparle d'ailleurs, m'a donné un très bon conseil. En fait, je l'ai vu 10 minutes quand je devais avoir 19 ans. J'étais fasciné par ça. Il avait une agence de pub qui s'appelait Business, et c'était le premier à faire en France des pochettes de disques concept. Je me souviens notamment d'une pochette de disque avec Gérard Lenormand qui se regardait dans un miroir, et il était dans le miroir, il était parfait, et en réalité il était défait, il revenait d'une soirée et tout. Et alors que jusqu'à maintenant, les disques étaient vraiment, c'était des photos un peu classiques à la Marouani, si j'ose dire. Et ce mec était, puis il commençait les émissions, des émissions de télé, et j'étais fasciné. J'ai réussi à avoir rendez-vous avec lui. Il m'a reçu dans son bureau derrière Beaubourg, et il m'a fait asseoir sur un fauteuil de bar, et tout autour, tout par terre, il y avait la presse internationale, on doit être en 81, donc c'était un peu novateur à l'époque, et il lisait la presse étrangère, et puis il m'a écouté. Alors moi, je me suis mis à dire, voilà, j'aime beaucoup ce que vous faites, j'aimerais faire un stage chez vous, parce que j'aime bien ce que vous faites, alors j'aimerais faire un stage chez vous. Il m'a laissé soliloquer comme ça pendant 10 minutes, et après il m'a dit, tu peux te casser. Je fais, mais pourquoi? Non, mais c'est bon, t'as rien à me vendre, casse-toi. Et là-dessus, il me dit, la prochaine fois que tu vas voir quelqu'un, essaye d'avoir un truc à lui vendre. Et voyez, là, je vais passer les années, mais on est à Europe 1 et on est à 10 mètres du bureau où Alain de Greff m'a reçu. Et je me souviens très bien, le jour où j'ai eu rendez-vous avec Alain de Greff, j'ai préparé le rendez-vous comme Thierry Ardisson me l'avait dit.
Oui.
Et j'avais préparé des vannes. Ça veut dire que je savais qu'Alain de Greff allait arriver en retard. Il est arrivé avec une heure de retard. Je lui ai tout de suite dit, mais tu sais pas qui je suis ou quoi ? Et je suis rentré dans son bureau. Je lui ai dit, oh là là, j'aime bien, là, ça pue le pognon, ça va m'intéresser. Donc j'essayais, là, j'étais le VRP en vanne. Et en fait, c'est vraiment un conseil qu'on doit donner à tous ceux qui veulent, tous les jeunes qui veulent des stages ou autres, c'est qu'est-ce qu'on a à vendre ? Toujours avoir quelque chose à vendre.
Donc merci, grand Yamamouchi Ardisson.
Ah oui, bah oui.
Ah bah oui. Bon, alors, Éric Lavenne, quand on cherche votre trace à la fin des années 80, on vous trouve à la tête carrément d'une agence de pub baptisée Arsenic, montée avec un associé. Une agence de pub tournant avec 50 salariés et créée dans un contexte assez particulier.
C'était, alors voilà, on a créé, j'avais deux associés en fait, François et Jérôme, et on s'est aperçu que la publicité pour les disques, elle venait d'être ouverte à la télévision, on est en 89, et nous on s'est spécialisé là-dedans, donc on faisait des pubs pour les disques. Mais c'est une époque qu'on ne peut pas imaginer, c'était une époque où les artistes et les musiciens gagnaient très 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 bien leur vie, et je me souviens de la première pub télé qu'on a faite, c'était pour une compilation pour Edith Piaf, en 33 tours et cassettes, je ne sais pas si vous imaginez, et ils en ont vendu 900 000.
C'était la fin de l'époque, hein, parce que quand même les CD étaient apparus depuis un certain temps.
Vous allez voir le truc, c'est qui est génial, c'est que nous on a bénéficié des pubs télé, mais ensuite il y a eu les CD où on a dû refaire toutes les pochettes de disques de tous les trucs existants, donc on avait un bon petit business et on est monté jusqu'à 50 salariés, on bossait aussi dans le cinéma, jusqu'à ce que, bien évidemment, avec les nouvelles technologies, le MP3, tout s'écroule comme un château de cartes.
Tout s'écroule comme un château de cartes. Bon, mais enfin, quand même, vendre 900 000 albums d'une compile d'Edith Piaf.
C'est pas moi qui les ai vendus. Hein.
Oui, mais en pleine époque des boys bands et du rock alternatif, c'est pas anodin, c'est juteux. Vous auriez pu rester dans le business, je ne sais pas, en tout cas de ce qui tourne autour des maisons de disques. Mais voilà, un copain vous avait poussé à rencontrer Stéphane Collaro, le producteur du Bébête Show, qui cherchait des concepts. Et voilà, vous y allez et...
J'y vais. Alors, j'ai rendez-vous avec Stéphane, c'est un de mes amis, Bertrand, qui m'avait dit, tiens, il cherche des concepts d'émission. Et là, en fait, Stéphane me parle d'une émission, d'un truc qui était assez... c'était une histoire de bateau sur la Seine, de croisière, je sais pas quoi, et ça ne me branchait pas du tout.
Ouais.
Donc, j'étais très courtois, je suis sorti, et au moment de sortir, il avait une productrice qui s'appelait Catherine, je m'en souviens très bien, et qui m'est tombée dessus en me disant « Mais pour qui tu te prends? Comment tu parles à Stéphane ?» Enfin, alors que moi, je pensais avoir été poli. Enfin, fin du rendez-vous. Et puis, trois semaines plus tard, coup de fil de cette Catherine qui me dit « Ah, dis donc, t'as tapé dans l'œil de Stéphane, et il aimerait que tu écrives pour le Bébête Show. » Donc moi, alors vraiment, je tombe des nues. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben voilà, tous les jours, t'envoies des sketchs, et si jamais ils sont pris...
Mais révèle l'humour qui est en toi. Alors d'accord, voilà. Vous étiez peut-être le roi de la vanne, mais enfin
mais
pas de manière
du tout roi
professionnelle.
De la non, pas du tout. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma méthode Sciences Po, quoi. J'ai acheté un bouquin qui s'appelait 1500, je me souviens encore, parce que je l'ai retrouvé, 1500 histoires drôles d'Hervé Nègre. J'ai stabilo-bossé les histoires où je me dis, tiens, je peux remplacer Toto par Michel Rocard. En gros, j'ai fait ça. J'ai envoyé des textes. Et au bout d'un mois.
Copier-coller.
Voilà. Et au bout d'un mois, elle m'appelle et elle me dit, voilà, t'as gagné tant. Et la somme était supérieure au salaire que j'avais en tant que PDG. Donc je me dis, mais c'est quoi ce business ?
Non.
Voilà. Donc en fait, c'est vrai que j'ai commencé sur l'écriture pour des raisons pas inavouables, mais j'avais une famille à nourrir.
Parfaitement mercantile. Mais... Donc vous avez lâché la pub.
Donc je n'ai pas lâché la pub parce que je n'allais pas laisser tomber une boîte. Déjà, elle commençait à péricliter un peu, mais on continuait quand même à marcher. Et j'ai continué donc à travailler pour le Bébête Show puisque j'ai été engagé. On a fait la dernière année du Bébête Show. Et. Je fais une parenthèse si ça vous
plaît.
Une fois, j'étais dans un restaurant et il y a Jean Amadou, feu Jean Amadou, qui est venu vers moi. Moi, je ne l'avais jamais rencontré et il était persuadé que j'avais pris sa place. Et je me souviens, il était dans le resto, il s'est adressé à moi. Moi, je le reconnaissais à peine et il m'a dit « Monsieur, je ne vous salue pas ». Et je lui dis « Ah, bah si, là si ». Voilà. Donc voilà, j'ai fait la dernière année du Bébête Show.
Alors, en transposant donc toutes les blagues du fameux dictionnaire des histoires drôles rédigé par Hervé Nègre, vous savez que cette encyclopédie, c'est le livre, paraît-il, le plus copié depuis 30 ans, Éric Lavenne.
Bah ouais, bah j'ai pas, voilà, il y en a qui ont l'intelligence de copier Seinfeld ou les grands humoristes américains. Moi, c'est l'histoire de Toto.
Écoutez,
je suis pas très fier.
Ça vous a bien réussi. Bon, il n'empêche que les sketchs, justement, que vous avez écrits pour le Bébête Show, ils vous ont permis, un bon jour dans l'année 94, de vous retrouver dans le bureau d'Alain De Greff, alors directeur des programmes de Canal+. Nous avez raconté tout à l'heure comment ça s'était passé, mais tout de même, là, vous étiez face à celui qui dirigeait les programmes de la chaîne la plus subversive de l'époque. Bon, vous aviez très envie d'écrire pour Canal. Ça s'est en fait enchaîné comment ? Parce que on sait que vous avez bossé sur la série H avec Jamel Debbouze, Éric et Ramzy, mais d'abord il y a eu les Guignols, voilà, l'époque mythique des Guignols.
Voilà, en fait il y a eu d'abord, j'ai travaillé pour, je réécrivais les textes de Devoise et Vecchi qui avaient remplacé Delarue à la Grande Famille, et puis il faut toujours traîner dans les cantines d'entreprise. Là j'ai rencontré Bruno Gassiot et Nicolas Plisson qui bossait avec Alain De Greff nous a poussé à travailler ensemble, et Bruno faisait un édito sur Nulle part ailleurs, et donc il présentait, il avait remplacé De Caunes, et il présentait les candidats, et j'ai fait ça pendant, on a fait ça pendant 3 ans, où on a reçu peut-être 900 invités, enfin c'était un truc de fou, et c'est là véritablement où j'ai appris mon métier, à savoir écrire tous les jours, essayer d'avoir des trucs drôles à dire, c'était pas toujours le cas, et après j'ai fait, du coup je me suis mis à écrire les sketchs pour les Guignols, et puis ensuite il y a eu la série H, les Robins, ce genre de choses.
On continue de cheminer. Éric Lavenne, dont le film sort mercredi prochain à Tours chez ma fille, et mon invité, on le retrouve tout de suite. Éric Lavenne, on a sans doute oublié en 2021 à quel point les Guignols de l'info sur Canal dans les années 90 ont pu contribuer à populariser ou à discréditer les personnalités médiatiques et plus encore les politiques. On a même dit d'ailleurs que les Guignols avaient contribué à l'élection de Chirac en 95, car les 18-35 ans, contre toute attente, ont intégré un personnage qui n'était pas de leur génération. Mais à quoi ressemblaient les séances de travail autour de Bruno Gassiot, quand vous êtes arrivé à Canal, donc Bruno Gassiot qui dirigeait l'équipe des auteurs?
Oui, alors avant de répondre à votre question, je voudrais revenir sur un point, parce qu'on raconte toujours que les Guignols ont contribué à l'élection de Chirac avec Manger des pommes.
C'est faux.
Mais on oublie, non, franchement, il faut regarder les audiences, on oublie totalement la puissance du Bébé de Show, parce qu'à l'époque, moi j'étais au Bébé de Show, et je peux vous dire que le Bébé de Show, quand on faisait des sketchs qui étaient beaucoup moins bien écrits, c'est vrai, mais qui étaient vus par énormément de monde sur Balladur, qui a été assez ridicule pendant la campagne, je pense que le Bébé de Show a eu beaucoup plus de poids
pour discréditer Balladur que pour upgrader
bien
Chirac.
Bien sûr.
Mais pourquoi avez-vous quitté d'ailleurs le Bébé de Show alors?
Non, le Bébé de Show s'est arrêté parce que c'est un problème d'image, je crois, et TF1, sans doute à juste titre, trouvait que ça allait... Le mot est dur, mais ça les ringardise un peu. Mais quelque part, c'est vrai que c'était plus classe, moi, parce que j'ai fait les deux, travailler au Guignol pour Bébé de Show. Mais n'oublions pas la puissance du Bébé de Show. Ça faisait 9-10 millions de spectateurs. Beaucoup plus que Canal, qui était quand même beaucoup très parisien.
Oui, c'était
confidentiel. Pour revenir ensuite sur les séances d'écriture, la grosse différence entre ce qu'on pouvait faire pour le Bébé de Show ou les Guignols, c'est la quantité de travail. C'est-à-dire que la base, c'est toujours pareil, et c'est pareil, on le verra pour le cinéma, pour la télé, pour tout. La base, c'est l'écriture. Si vous ne prenez pas la peine d'écrire, de se prendre vraiment la tête, de confronter ses idées, de réécrire les choses, on n'y arrive pas. Et là-dessus, Bruno Gassiot, à qui je dois beaucoup, a un don, c'est que c'est peut-être pas le plus grand créatif du monde, mais par contre, moi je sais que quand je lui ai amené 4 pages, il arrivait à en faire une demi-page bien. Et la vraie difficulté, comme disait, c'est Flaubert qui à un moment travaillait pour un quotidien et il devait envoyer des nouvelles tous les jours. Et une fois, il écrit en disant « Excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de faire court ».
Et c'est, c'est magnifique.
C'est ça qui est difficile dans le travail d'écriture. C'est réussir à faire court, que ce soit pour un sketch ou pour un film. C'est-à-dire qu'il y a une vraie densité.
Oui, mais en tout cas, là, vous écriviez pour des sketchs. Tout à l'heure, bien évidemment, on va généreusement parler du cinéma. Et là, l'exercice, il est étalé sur 1h30. Mais alors, restons pour l'instant sur les Guignols, Éric Lavenne. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il n'y avait pas d'idéologie racialiste, pas d'idéologie sur le genre, le suprémacisme. Chacun se forgeait ses opinions à l'aune de sa conscience. Et faire rire, donc, c'était vraiment un exercice d'une liberté absolue.
Mais c'était fou. Et encore, quand vous passez à travers une marionnette, ça c'est une chose, parce que d'un seul coup, vous n'êtes pas directement le vecteur. Mais l'exercice qu'avait pu faire De Caunes, même s'il était moins politique, ou Gassiot, d'être en direct, à côté d'hommes politiques, et puis balancer des choses, mais dans tous les domaines, sur quelle que soit la religion, l'orientation sexuelle, tout, on pouvait absolument tout faire. Et comme il n'y avait pas ce tribunal terrible des réseaux sociaux, on pouvait développer des choses. Et puis, le lendemain, on passait à autre chose.
Oui, parce que c'est, en fait, la télé, c'était l'outil de parole éphémère par essence,
voilà.
Quoi.
Voilà, on pouvait en reparler le lendemain, mais personne n'enregistrait, on revenait pas là-dessus c'est et ça. On passait à autre chose. Et c'est pour ça qu'il y avait cette liberté débridée qui était parfois un peu excessive. Moi, j'ai écrit des choses, j'en suis pas très fier aujourd'hui.
C'était quoi vos sujets de prédilection ? Vous aviez une spécificité au Guignol ? Éric Lavenne, allez, avouez tout.
Non, c'était au Guignol, je faisais des... Alors, au Guignol, il y avait deux types d'auteurs. Il y avait les auteurs de la quotidienne et les auteurs des sketchs enregistrés, qui étaient des trucs plus intemporels. Donc moi, je faisais les sketchs intemporels. Alors généralement, ce que je faisais, c'est qu'on s'emparait d'une tête de Turc, mais d'un personnage, et on devenait un peu spécialiste. Et alors moi, il y a un type extrêmement drôle qui s'appelle Laurent Baffy, mais Laurent Baffy, je connais les affres qu'il connaissait quand il a été co-présentateur avec Philippe Gildas sur Nulle part ailleurs. Philippe était un mec génial, mais il ne laissait pas non plus une place infinie. Et je voyais dans quelle souffrance se trouvait Laurent Baffy. Et moi, j'écrivais des sketchs sur cette souffrance-là. Et je sais qu'un jour... Et je sais que
Gildas
Laurent,
vous en a voulu.
Oui, je veux dire, il y avait un type qui était assez génial, qui était Alain De Greff, qui lui était un peu vicieux. Parce que quand vous faisiez les sketchs enregistrés, c'était les seuls sketchs, quand il les visionnait, où il y avait le nom de l'auteur. Pas quand vous faisiez la quotidienne. Et moi, qui étais un spécialiste de certaines choses... de certaines têtes de Turcs, notamment des gens qui bossaient à Canal, ils montraient ça en disant « Regarde ce que Lavenne a écrit ». Donc évidemment, les mecs, j'étais pas très très apprécié. Mais c'était, voilà. Donc j'avais plutôt des déclinaisons, mais ça pouvait être Virenque avec le dopage, ça pouvait être Baffy avec la difficulté de trouver des vannes. Enfin voilà, j'avais quelques petites têtes de Turcs qui me plaisaient bien.
Alors, j'aimerais savoir, Éric Lavenne, si c'est en écrivant des sketchs pour les Guignols ou en écrivant sur la série H avec Jamel Debbouze que vous avez rencontré celui que 10 ans plus tard, vous avez dirigé au cinéma dans la comédie très réussie Incognito face à Franck Dubosc. Je veux parler de Benabar.
Alors Benabar, alors moi j'étais le terme, et qui est un vieux terme, que j'étais directeur artistique de la série H. Aujourd'hui on dirait showrunner.
Ouais, à l'époque ça n'existe pas.
Le mot showrunner, non. donc j'étais chargé de l'écriture des textes, de superviser les équipes d'auteurs, de réécrire les textes. J'avais quand même un truc dingue, c'est qu'on me payait en plus pour venir sur les enregistrements pour rajouter des vannes. Alors se dire qui peut rajouter des vannes auprès de Jamel, Eric et Ramzy. Mais bon, voilà, je faisais ce travail-là. Et donc, dans cette équipe d'auteurs, où il y avait eu une dizaine d'auteurs, il y avait Benabar. Et c'est assez amusant parce que Benabar, Bruno Nicolini, à l'époque, donc moi, il me disait qu'il était chanteur. Mais pour moi, je fais un peu de guitare, moi aussi je suis chanteur, mais je ne pensais pas que c'était ça. Et un jour, alors il avait besoin de manger parce que c'était le début de sa carrière. Puis un jour, il me dit, tiens, je joue ce soir et tout, petite salle, je sais plus, je crois que c'était au Café de la Danse.
Viens me voir.
Et viens me voir. Mais moi, je m'attends à voir un copain qui est là, ivre mort, en train de faire gling-gling sur sa guitare. Et je vois...
Un artiste,
puis son premier, voilà. Son premier ou deuxième premier album, c'est quand même exceptionnel. Donc je dois dire, j'ai pris une balle dans la gueule. Mais j'avais remarqué avant que le mec qui avait, dans tous les auteurs, le type qui avait le plus d'idées parmi les auteurs de H, c'était Bruno. Il est très très fort.
Il est très fort. Bon, ce qu'il y a d'absolument formidable dans la vie, c'est qu'elle est franchement imprévisible. Et d'ailleurs, voilà, le chemin, le parcours d'Éric Lavenne le prouve. Vous voulez en savoir davantage ? Pas de problème, on est sur Europe 1, on y est bien. On se retrouve tout de suite.
Europe 1.
Ah, la famille reste une source d'inspiration absolument prodigieuse pour un réalisateur. Et pour Éric Lavenne, justement, dont la nouvelle comédie « Un tour chez ma fille » sort mercredi en salle avec Josiane Balasco, avec Jérôme Commandeur, avec Mathilde Seigné. Éric Lavenne, quand vous êtes devenu, alors j'aime bien cette formule « showrunner » sur H, la série culte de Canal+, avec Jamel Debbouze, Éric et Ramzy, vous nous l'avez dit, l'expression n'existait pas. On dirait d'ailleurs qu'on l'a inventée pour vous. Je rappelle que showrunner, c'est celui qui dirige l'écriture de la série, donc qui dirige les scénaristes et les auteurs au fil de la saison. Et j'y arrive, c'est un poste hyper important, mais je voudrais savoir, vous n'aviez aucune intention de passer de l'autre côté, c'est-à-dire réaliser, puisque vous gériez tout.
Alors voilà, à l'époque, en fait, je considérais, c'était sur H notamment, que les réalisateurs avaient peu d'importance, parce que déjà c'était filmé, c'est du théâtre, c'est du sitcom, on était filmé en public, les axes de caméra, il n'y avait pas de gros travail à faire, et puis j'ai envie de dire que la direction d'acteur, quand vous avez Éric, Ramzy et Jamel, vraiment, il faut les laisser en roue libre. Donc pour moi, la base, vraiment, ce qui avait d'importance, c'était l'écriture, et je considérais un peu, maintenant j'en suis revenu, mais comme les réalisateurs étant des éléments pas très importants, mais... J'en suis revenu.
Puisque c'est votre 11e film qui sort mercredi en salle, vous êtes auteur-réalisateur.
Voilà. Mais à l'époque, c'est vrai que pour moi, le côté auteur était le plus important. Et maintenant, c'est plus du tout. Enfin, c'est le cas, mais c'est vrai que le fait d'être réalisateur m'aide sur l'écriture, et je considère effectivement l'écriture technique et cinématographique quelque chose d'important. Donc, j'étais un peu un petit con. Je connaissais pas les choses. Et en fait, après âge, j'ai fait des programmes courts, notamment pour Canal qui s'appelait Les Faut-il avec Maurice Barthélémy et Robin des Bois. J'invite les gens à le regarder sur YouTube. Les Faut-il, Maurice Barthélémy, c'est à mourir de rire.
D'accord.
Et donc, et puis la télé marocaine, la deuxième, m'a contacté parce qu'il voulait faire un programme pour la rupture du jeûne, parce que c'est au moment du Ramadan, la rupture du jeûne.
Et on vous appelle, vous, pour ça ?
Voilà, on m'appelle et on me dit, il faut que tu formes des auteurs marocains, parce que moi, je n'avais pas passé ma vie à Rabat.
Vous voulez dire, former des humoristes,
oui,
c'est
ça ? Oui, auteurs d'humour marocain, mais ce qui est complètement...
C'est un leurre de former de toute façon des humoristes,
oui, non, mais
on l'est ou pas ?
C'était extrêmement drôle, parce que je me souviens de la première réunion, je ne sais pas, ils pensaient que j'étais le pape, parce que je me souviens tous les jeunes marocains qui étaient là, de 12 âges, d'ailleurs, ils étaient tous habillés comme s'ils allaient à un mariage. Et surtout, je me suis aperçu que d'abord, ils étaient très drôles, mais j'avais rien à leur apprendre. Et surtout, j'étais incapable de donner des conseils, puisque le type d'humour, c'est un autre langage, c'est autre chose.
Bien sûr.
Mais par contre, je m'amusais beaucoup. Et puis, à Canal, il y avait un auteur qui s'appelait Hector Cabello-Reyes, qui voulait travailler avec moi sur plein de choses. Et je me suis dit, tiens, allez, je vais l'emmener au Maroc, on verra bien, pour essayer de le faire bosser. Et puis un jour, en revenant, en atterrissant à Orly, c'est comme quoi, il y a quelques secondes qui changent votre vie. J'avais jamais pensé au cinéma. Il me dit, tiens, j'ai l'idée d'un sketch. Ce serait une maison hantée par des fantômes homosexuels et ça s'appellerait Poltergeist. Et moi, je lui dis, mais tiens, mais pourquoi on n'en fait pas un film ? Mais ça reste l'être morte. Et j'ai un de mes associés, Vincent Roger, qui est toujours mon associé aujourd'hui, qui me dit, vous en êtes où de l'écriture de ce film ? Moi, l'écriture, finalement, on se met à écrire. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais comme à chaque fois. Moi, j'adore les méthodes assimiles, donc j'en ai plein chez moi.
Rachetez un autre bouquin.
Voilà, j'achète un bouquin qui s'appelait
Comment j'écris un scénario.
Voilà, c'est ça. Bouquin que j'ai jamais ouvert, mais j'avais aussi Comment jouer de la violon.
Vous l'avez jamais ouvert, les yeux dans les yeux.
Yeux dans les yeux, je l'ai feuilleté rapide, mais je me suis dit, vaut mieux que j'y fasse les erreurs tout seul. Et du coup, on a écrit ce scénar, mais pour moi, je n'étais que auteur. Sauf que ma boîte, mon agence de pub, a décidé de produire le film. Et pour avoir de l'argent, notamment auprès de Canal+, on a mis réalisation Éric Lavenne. Donc, je suis allé voir les chaînes, voilà, super. Ensuite, j'ai trouvé les comédiens, Clovis Cornillac, Julie Depardieu, Michel Duchaussois, donc des super comédiens.
Oui.
Mais moi, il était hors de question que je réalise.
Effectivement, l'histoire, elle est magistrale, parce que vous devenez réalisateur presque malgré vous. Mais je reviens quand même au scénario de ce premier film complètement déjanté, Poltergeist. Vous nous avez dit Michel Duchaussois.
Bon,
extraordinaire, la comédie française, incroyable.
Spécialiste des fantômes.
Voilà, spécialiste des fantômes. Mais aujourd'hui, une comédie avec des fantômes homosexuels, vous n'auriez ni producteur ni distributeur.
Alors, oui, non, mais c'est sûr que c'était une époque un peu particulière. Maintenant, en même temps, c'est ce qui m'a permis de monter mon premier film. C'est toujours le conseil que je donne quand on me demande des types qui veulent devenir réalisateurs. Ils me disent, qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, j'ai aucune méthode, mais il y a un truc qui est sûr, c'est que si vous venez voir des gens leur disant, voilà, j'ai un film incroyable, donc prenons l'exemple de Poltergeist, ça intéresse les gens, parce que même, je pense que Claude Sauté, s'il vient avec Nelly et Monsieur Arnaud, et c'est son premier film, il n'arrivera pas à le monter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à venir avec des choses, au moins où les gens, ils s'interrogent un peu, voilà, ils se disent, tiens, il faut que ça les émeuve un peu. Maintenant, ensuite, à monter, c'est toujours un peu compliqué.
Éric Lavenne, je voudrais savoir, comment se présente-t-on sur un plateau de cinéma où vous attendent 50 techniciens qui vont tous défiler pour vous demander ce qu'ils doivent faire, alors que vous n'avez absolument jamais rien réalisé de votre vie ? C'est-à-dire, vous avez fait des petites séquences comme ça pour Canal, mais jamais au cinéma.
Alors,
quand le chef-op vient vous voir en vous disant « choisis quelle focale
?» Alors, moi, j'ai une réponse assez simple, c'est quand on me demande le type de focale, je réponds toujours « à ton avis », et le mec me donne toujours la bonne réponse. Et les mots techniques que je ne comprenais
donc,
pas...
Donc, il faut en fait avoir engagé au départ les meilleurs.
C'est le secret du cinéma, c'est ça. Et c'est là d'ailleurs où ce qui m'a été le plus utile dans ma carrière de réalisateur, c'est d'avoir été chef d'entreprise. Parce qu'en fait, quelque part, vous ne savez rien faire, mais c'est vous qui donnez un peu la direction et vous avez une intelligibilité du projet et vous arrivez à ce que les gens travaillent ensemble. Donc c'est vraiment ce rôle de chef d'entreprise qui est très important.
Alors, Un tour chez ma fille et votre 11e film, Éric Lavenne. Depuis quand avez-vous pris goût réellement à la technique et au secret de cet extraordinaire métier de chef d'orchestre ?
Moi, je dis, c'est depuis, au fur et à mesure, c'est que surtout, je me suis aperçu que le fait de de réaliser, ça m'a permis de changer mon écriture. Éviter les séquences inutiles, essayer d'être le plus efficace possible, parce que quand on est auteur, tout est possible. Vous pouvez commencer votre film en mettant le sous-marin s'écrase contre un porte-avions. Vous avez déjà bouffé 3 budgets, puis c'est la fin du truc. Pareil, très souvent, je reçois parfois des scripts, puisqu'on me propose des choses, où il y a marqué « les gens s'amusent beaucoup ». Non, bah ça, les gens s'amusent beaucoup. Non, dis-moi pourquoi ils s'amusent. Écris-le-moi, parce que sinon, les gens s'amusent beaucoup. On ne sait pas pourquoi.
Non, mais réellement, vous recevez ce genre de script ?
Ah, bah vous en recevez beaucoup, oui. Et voilà. Et moi, j'ai dû aussi envoyer des âneries de temps en temps.
Tu ne commençais pas par les gens s'amusent beaucoup.
Mais la technique et l'écriture cinématographique, quelque chose d'intéressant et de plus important. Et même si, moi, le premier conseil que j'ai eu en matière de cinéma, c'était Édouard Molinaro, la veille de mon premier film, qui est venu me voir. Il m'a dit, écoute, Eric, je lui ai dit, donne-moi un conseil, Édouard. Il m'a dit, je n'en ai qu'un, c'est intéresse-toi à la comédie humaine. C'est intéresse-toi à ce qui se passe sur le plateau avec tes acteurs. C'est ça que tu dois filmer. Toi, tu n'as pas peur d'être jugé par tes pairs, P-A-I-R-S. C'est-à-dire, comme je n'avais pas fait d'école de cinéma, la technique m'importait peu. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne m'importe pas. Il y a un truc qui est sûr, c'est que ce qu'il faut, c'est ne pas faire de faux effets de style. C'est-à-dire qu'on a tous envie de faire des travelling compensés, de faire des top shots, de faire des choses incroyables. Mais l'écriture cinématographique, il y a un vrai langage. Cette grammaire n'intéresse que si elle est reliée à votre propos. Et très souvent, dans les premiers films, le réalisateur, il a envie de montrer qu'il maîtrise tout, qu'il sait tout faire et tout. Et il fait des choses qui, en fait, ne servent à rien.
On retrouve tout de suite Éric Lavenne. Éric Lavenne, il y a une phrase qui court dans votre métier et que je trouve prodigieusement juste. On pleure tous des mêmes choses, on ne rit pas des mêmes choses. Ce qui fait que lorsqu'on réalise des comédies, lire les critiques de cinéma, c'est un peu comme jouer à la roulette russe, c'est ça ?
Oui, alors c'est sûr que les comédies, même si moi, certes, je fais des films qui sont positionnés comme des comédies, mais j'écris des drames. Des drames, mais avec des choses drôles, puisque si on parlait de retour chez ma mère, quand Alexandra Lamy, elle revient chez elle, elle a perdu son boulot, habite chez sa mère, et c'est cette situation de faiblesse fait que sa sœur jalouse va lui tomber dessus. Dans Un tour chez ma fille, on a quelque part quelque chose qui est la confrontation entre une fille et sa mère, sachant qu'elle n'est pas la préférée, c'est des moments difficiles. Donc en fait, oui, il y a des choses drôles, parce que dans la vie, même dans les moments les plus tristes, il y a toujours des choses drôles, mais c'est avant tout des drames. Maintenant,
les critiques.
Les critiques, oui. Quand elles viennent voir mes films, je pense qu'elles se disent « Tiens, ça doit être une grosse comédie ». Et c'est vrai que, quelque part, parfois la batte de baseball n'est pas très loin. Et on peut se faire un peu descendre. Moi, les critiques, évidemment, je préférerais n'avoir que des bonnes critiques. Mais je pense qu'il faut d'abord prendre ça avec philosophie. Et puis... se dire que c'est un métier difficile, parce qu'on leur demande de juger, ils vont dans des territoires tellement différents que quand ils voient des comédies, parfois ils se disent, puis quelque chose...
Et puis un critique qui écrit pour Télérama n'écrira pas de la même manière que s'il écrit pour Le Parisien.
Ouais, et puis le rire, c'est un truc très particulier. Autant les larmes, il n'y a pas de souci, mais le rire, c'est quand vous riez de quelque chose qui peut être un peu lourd, graveleux, vous avez peur d'être jugé. Donc le rire, il y a quelque chose d'indécent, vous révélez un peu trop. Donc les critiques, moi, il n'y a qu'une seule critique qui m'a fait extrêmement mal. C'est la première.
Pour le tout premier film,
Poltergeist, qui était vraiment. Cette journée de lancement a été absolument terrible. Et je lis pour la première fois une critique sur mon travail. Parce que quand vous bossiez à la télé, il n'y a jamais de critique. Et je peux le citer, même si c'était Le Parisien. Et Le Parisien, à l'époque, disons que quand les films étaient moyens, ils mettaient 3-4 étoiles. Ils avaient tendance à mettre des étoiles comme un hôtelier tunisien. Il y en avait partout. Et moi, je me dis, combien d'étoiles vais-je avoir ? Et là, je n'ai pas d'étoiles. Ils avaient créé pour moi un logotype particulier, le rond noir de l'infamie. C'est-à-dire que je me suis fait... mais démonté, comme vous ne pouvez pas imaginer. Ça m'a totalement traumatisé. Je me souviens, j'ai appelé Clovis Cornillac immédiatement. Il m'a dit, c'est pas grave, etc. Et le critique qui a fait ce papier-là, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps à un dîner. Et là... C'était il y a 4-5 ans, donc 10 ans après ce truc. Et il me dit, entre-temps, j'ai fait quelques trucs. Il me dit, ah Eric, c'est drôle, avec mes filles, ce week-end, il pleuvait, on s'est marré, on a passé... Elles ont encore regardé une nouvelle fois Poltergeist. Qu'est-ce que c'est drôle ? Le type qui disait ça, mais moi j'avais envie de... Il m'avait anéanti le premier jour de tournage. Évidemment, je ne lui ai pas fait le plaisir de le dire, mais je trouve ça vraiment... Je pense que ce type-là, par exemple, n'avait pas vu le film. Parce que c'est vrai que c'est facile de taper sur un mec qui vient de Canal, qui fait son film, ce genre de choses. Et il y a une facilité à casser de temps en temps les comédies.
Donc là, vous n'avez rien répondu.
Non, j'ai rien répondu. Alors, c'est drôle parce que maintenant, ça me revient. Ce premier film, heureusement, ça a tout de suite cette critique a été contrebalancée par une chose. C'est Édouard Molinaro qui m'a appelé. Peut-être trois jours après la sortie, il m'a dit « Éric, tu viens d'avoir quelque chose que les réalisateurs rêvent d'avoir. » Je ne comprends pas. Il me dit « Voilà, achète les cahiers du cinéma. » Donc, c'est vrai que je ne lisais pas les cahiers du cinéma.
Ah, mais attendez, la fameuse histoire entre Truffaut et Lelouch.
Voilà, enfin moi, c'était ni Truffaut ni Lelouch, mais les cahiers du cinéma, c'était François Bégodeau, l'auteur, qui avait fait un papier, une double page sur Poltergeist. Ça s'appelait Bon Genre, puisque c'est un film de genre, et critique absolument dithyrambique sur ce que je fais, et surtout avec, je ne le connais pas François Bégodeau, avec exactement ce que j'aime, c'est qu'il avait remarqué qu'en fait, je n'appuyais pas les gags, et il fallait aller chercher des choses parfois dans l'image, parce que moi, ce qui m'intéresse dans le cinéma, et j'essaye de le faire de plus en plus sur les comédies, c'est que tout reste extrêmement réaliste. Même si vous avez un propos qui semble incroyable, maison hantée par des fantômes homosexuels, mais si vous prenez un tour chez ma fille, tout est totalement réaliste. Je veux des choses drôles, mais qui soient réalistes, qui puissent arriver, c'est ça qui me touche. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas insister sur les gags. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, très souvent, lorsque je fais les promos que je fais, et j'invite les gens à regarder les teasers d'un tour chez ma fille sur le net, c'est qu'en fait, je prends des extraits de films, parce que je n'ai pas de...
Vous ne faites pas de bande-annonce?
Je ne fais pas de bande-annonce, parce que moi, je n'ai pas de vanne directe. C'est-à-dire que c'est dans la vie, les choses se déroulent et prennent de la saveur au fur et à mesure.
Est-ce que le public, en fait, aujourd'hui, tient compte des critiques de films comme il en tenait compte il y a 20 ans ?
Moi, je me rassure toujours en disant « En dehors du public, je ne plais à personne ». Donc, en fait, les critiques, bien sûr que ça... Ce qui m'ennuie, c'est que ça crée un territoire. Et je dirais que c'est pas tant...
On va dire que ça peut créer un climat, une ambiance qu'on installe dans les médias.
Voilà
quand on a la carte.
Voilà. Moi, je ne pense pas avoir... Je n'ai pas la bonne carte, en tout cas. Mais il y a un phénomène assez étonnant, c'est que les films que je fais surperforment en VOD, bizarrement, par rapport au nombre d'entrées. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que je perds parfois, j'ai pu perdre sur certains films, et même des films qui ne méritaient pas une telle
opprobre. Parce que les gens disaient, je vais le regarder en streaming à la maison.
Voilà, parce que, encore une fois, c'est vrai que je ne fais jamais les grands titres quand mes films sortent. C'est, maintenant, je pense que c'est plus un climat général, et très souvent, les gens sont surpris, ça va être très... très très immodeste que je raconte, mais parce qu'il passe un bon moment et il se dit, tiens, je pensais pas que ça allait être ça.
Le dernier a amené en salle effectivement plus de 2 millions de spectateurs.
J'ai eu le même problème, j'avais fait un film qui s'appelait Chamboule-tout, il y a quelques mois, qui avait fait un succès pour moi moyen, on avait dû faire 750 000 entrées salles.
Avec José Garcia. Et Alexandre
Lamy. Et j'ai appris que sur Canal+, il avait surperformé et un taux de satisfaction énorme. Donc j'ai toujours tendance à penser que, peut-être les critiques ne mettent pas. Mais enfin, ce qui n'aide surtout pas, ce n'est pas les critiques, il ne faut pas l'oublier, c'est d'abord le temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse très mauvais le jour de la sortie. La tempête de beau temps, c'est ce qu'il y a de pire contre les,
mon Dieu.
Films.
Quand on sait qu'un film, en fait, ça prend au moins 2 ans d'une vie et il faut que ce jour-là, il fasse moche.
Mauvais, voilà.
Juste avant de faire une très courte pause, Éric Lavenne, quand on vous demande quel film vous avez réalisé, vous faites toujours la blague de répondre Incognito, Barbecue et Intouchable.
Non, alors le gros souci, c'est que quand les gens on me présente en temps, on me demande ce que je fais, les gens ne me connaissent pas, comme 99% des réalisateurs, nous ne sommes pas des hommes publics. Donc moi je dis, je fais du cinéma, je réponds parce que sinon ça fait un peu flagorneur. Donc, il y a peut-être des films que j'ai vus, et là je commence à citer, Bienvenue à bord, Barbecue, Retour chez ma mère. Là je vois que ça ne réagit pas, et très vite j'enchaîne et je dis, j'ai fait Intouchable. Et là, on me dit, ah d'accord, ouais, c'était très bien, puis je suis content. Donc je remercie Nakache et Toledano, mais je le fais systématiquement, parce qu'en fait, les gens ne connaissent pas la tête des réalisateurs, et c'est très vexant de dégrainer l'ensemble de son œuvre, sans que ça ne dise rien à personne.
On retrouve tout de suite Éric Lavenne.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Un tour chez ma fille. Le nouveau film d'Éric Lavenne sort mercredi en salle et on se balade avec Éric Lavenne. Bon, Éric Lavenne, on adore bien évidemment nos parents, mais la famille tout de même, c'est une bulle de tension, aussi forte que réjouissante d'ailleurs pour un réalisateur. Parce qu'avec la famille, quelles que soient les situations, on touche à l'universel. Moi, quand je regarde vos comédies, je me dis que vous devez aimer le cinéma italien.
J'adore le cinéma italien, presque autant que la gastronomie italienne.
Voilà.
Non, mais voilà, comme tout le monde. Et j'aime beaucoup le public italien, parce qu'on a la chance, mes films marchent très bien en Italie et en Espagne. Mais le cinéma italien, j'adore, tous les grands films, la comédie italienne, comme on dit. Mais j'ai tendance à ne pas en parler, ne pas le mettre dans les dossiers de presse, ce genre de choses, parce que tout le monde dit aimer le cinéma italien. Je ne sais pas si tout le monde le connaît, vraiment.
Mais, vous, oui.
Moi, ce que j'aime, mais restons franco-français, C'est-à-dire que je trouve qu'il y a des tels exemples en France de comédies qui mélangent à la fois une réalité et une ironie, un humour fou. Quand vous prenez les films d'Yves Robert, un éléphant, ce sont des chefs-d'œuvre absolus. Ou même les... moi, César et Rosalie, Sautet, de toute façon, ce sont des maîtres absolus.
Sautet, d'ailleurs, adorait les scènes de repas dans ses films, et vous aussi, elles sont nombreuses. Alors, quand on voit des scènes de repas comme ça, dans les films choraux que vous faites, c'est le cuisinier qui s'exprime? Parce que je dis ça parce que Laurent Mariotte m'a dit que vous êtes aussi bon devant les fourneaux, vraiment que derrière une caméra. Vous pourriez ouvrir un restaurant, d'après Laurent Mariotte.
Trop de travail.
Trop de travail.
Non, c'est Laurent est très gentil. Mais Laurent, qui est vraiment un camarade, un type adorable, et qui est avec son complice Olivier Pouls, qui est un oenologue notoire. Voilà, donc il est adorable. Non, mais c'est drôle parce que pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de repas dans mes films? C'est que quand vous êtes avec des amis, avec la famille, quand vous voyez, c'est toujours autour d'un repas. Invitez des amis, ne leur donnez pas à manger, vous allez les entendre. Donc voilà. Et par contre, je fais très attention à ce que mes comédiens mangent. Alors, quand on tourne un film, il faut faire attention à ce qu'ils mangent, qui ne s'empoisonnent pas, bien sûr, à ce qu'il y ait des aliments qui ne tâchent pas. Parce que sinon, par exemple, ne jamais donner des gambas à des comédiens, parce que sinon les raccords vont être absolument impossibles. Et le maquillage, voilà, donc je fais des plats simples, mais je fais attention à ce que les comédiens mangent bien. À ce sujet, j'ai Josiane Balasco, qui est la championne du monde
de
l'absorption de frites. Je vais vous raconter dans Retour chez ma mère, il y a une séquence où elle devait manger des frites, mais quand on tourne une séquence, il y a plusieurs axes et autres, donc il faut le faire 10 fois. Donc elle avait mangé 10 assiettes de frites. Et à la cantine, il y avait des frites. Et
elle
en a repris. Donc, moi, c'est ma reine, c'est ma championne, Josiane.
Bon, Claude Chabrol choisissait les lieux de tournage en fonction des restaurants gastronomiques dans la région. Je ne sais pas s'il cuisinait. Vous cuisinez. Quand vous invitez les copains après le tournage, vous leur préparez quoi?
Moi, je fais des choses simples, j'enfonce des portes ouvertes, mais voilà, c'est comme les films. Je fais des plats que j'ai envie de manger. Par exemple, je ne cuisine jamais des choses que je n'aime pas. Même pour faire plaisir, parce que je pense qu'il faut aimer ce qu'on fait pour le faire correctement. Mais moi, je cuisine des choses très simples, et puis c'est un bonheur de... Je nourris ma famille, mes enfants et ma femme cuisinent très bien, et je trouve que ce sont des moments de partage merveilleux, et puis c'est, à mon grand âge, c'est un des derniers plaisirs de la vie.
Dommage qu'on ne soit pas filmé, parce que franchement... Allez, reparlons métier. Donc, mercredi prochain, sort en salle Un tour chez ma fille, avec une pléiade d'acteurs réjouissants, Josiane Balasco en tête. Et alors, j'ai appris une chose assez étonnante. Et je voudrais, juste avant qu'on ne se quitte, que vous me disiez si tous les réalisateurs fonctionnent ainsi. Il paraît que chaque matin, avant de tourner, pour finaliser votre mise en scène, vous demandez à vos techniciens, je dis bien à vos techniciens, pas du tout à vos acteurs, de vous jouer toutes les séquences, toutes les scènes de la journée. Pourquoi aux techniciens ?
Parce qu'ils sont là, puis ça les associe. Non, c'est-à-dire que le moment le plus important pour un réalisateur, c'est le matin, la mise en place, savoir ce qu'on va tourner. Certes, il y a souvent un découpage qu'on a pu faire précédemment, mais c'est vraiment en jouant les séquences. Donc du coup, moi je trouve que ça implique les techniciens, donc je vais demander à un machinot...
Mais attendez, jouer les séquences, carrément.
En plus, mais ça crée une très bonne ambiance. Alors le truc qui m'amuse, c'est que j'ai notamment un chef-op qui lui, en fait, apprend carrément le texte.
Non, c'est extraordinaire. Vous demander si ça n'avait pas provoqué des vocations, mais on est presque là.
Je vais pas trahir de secret, mais il y en a certains, faut surtout pas qu'ils fassent comédien.
des noms. Alors, quand les acteurs, par hasard, arrivent et voient leur texte, leur rôle, leur personnage, interprété par, normalement, celui qui porte les câbles,
ils sont pas inquiets, ils se disent que la concurrence n'est pas trop élevée, mais c'est vraiment D'ailleurs, pour ceux qui veulent voir des tournages, il ne faut pas regarder un tournage, en soi, c'est assez lent. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment cette mise en place le matin. Au début, on arrive 2 heures avant ce qu'on appelle le prêt à tourner. Et on travaille, on regarde quel cadre on va prendre et surtout la mise en scène qu'on va faire. Et là, je vais faire un truc que je n'ai jamais fait, c'est que pour mon prochain film qui s'appelle Plancha, la suite de Barbecue.
Vous partez tourner d'ailleurs dans 15 jours.
Je pars bientôt en Bretagne et j'emmène toute une troupe de jeunes comédiens à qui j'ai demandé d'apprendre le rôle de Dubosc, de Lambert Wilson, de Jérôme Commandeur, etc. Et ils vont jouer les rôles et je vais commencer à faire cette mise en place avant.
Oui.
Comme ça, je vais gagner un peu de temps et quand les comédiens arriveront véritablement, j'aurai déjà une idée plus précise des choses, avec des choses plus affinées, parce que comme c'est un film choral, c'est un film qu'on tourne en scope, le cadre est quelque chose d'important et il faut trouver vraiment les beaux mouvements, les beaux déplacements.
Bon, Éric Lavenne, il file vite le temps. On arrive au terme de cette conversation. Je voudrais savoir, j'imagine que vous avez projeté Un tour chez ma fille à votre maman.
J'ai peur.
Parce que je voulais savoir vous avait pardonné.
Elle m'a pardonné, mais je dois dire que j'ai peur de lui montrer. Parce qu'en plus, je pensais lui faire plaisir. Josiane, dans le film, s'appelle Jacqueline comme ma mère. Elle a un chat qui s'appelle Princesse comme celui de ma mère. Et je
ça
dois
fait
dire
beaucoup
que,
d'indices.
Donc, il faut que je le. Il faut que je vois. Il faut que je la prépare.
Bon,
mais il n'y a rien de terrible pour elle, mais parfois elle trouve des petits points de détail qui ne lui plaisent pas. Et comme je reste un enfant, puisque ma mère est toujours en vie et j'espère être un enfant le plus longtemps possible, j'obéis à ma mère et ma mère me fait un peu peur parfois.
Bon, comme justement Lynn Renault fait peur à sa fille, Josiane Balasco dans le film.
Il faut en parler très rapidement. On a une performance exceptionnelle de Lynn Renault qui vient mettre à l'amende sa fille Josiane Balasco. Et d'un seul coup, Josiane Balasco se transforme en plus vieille ado de France, si j'ose dire. C'est un très très grand moment et c'était le bonheur de tourner avec Lynn. Et je comprends le plaisir que notre ami Danny Boone a à tourner avec une maman comme elle.
Et bien, si vous voulez profiter de tout ça, voilà, c'est très simple. Mercredi, en salle, un tour chez ma fille. Merci infiniment,
Éric
Lavelle.
Merci pour votre accueil. Merci beaucoup. On a le temps, c'est bien. Merci.
À bientôt. Europe 1.